Naoki Takahashi, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, lors de la 7e TICAD, le Premier ministre Shinzo Abe a appelé les chefs d'entreprise japonais à investir plus en Afrique. Pourquoi le marché africain est-il si important à vos yeux?
En ce qui concerne l'importance stratégique de l'Afrique pour l'économie japonaise, je pense que je peux vous citer deux points. Premier point, c'est le poids démographique de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique dispose d'une main-d'œuvre jeune et abondante. Et la deuxième raison en est que le Japon est un pays qui est dépourvu de ressources naturelles. Donc, à cet égard, pour garantir l'accès aux ressources naturelles, le continent africain représente un continent vraiment important sur le plan économique.
Alors, en 10 ans, les exportations japonaises en Afrique sont supposées avoir baissé de près de la moitié. Pourquoi ce phénomène et quelles mesures avez-vous prises lors de la 7e TICAD du mois d'août dernier pour enrayer cette baisse?
C'est vrai que vous avez raison de dire qu'en fait, le volume d'exportations japonaises envers l'Afrique a connu une baisse à partir de 2008. Il faut dire qu'en fait, en 2008, tout le monde entier, a connu une baisse. Et ce que je peux vous dire maintenant, que lors de la TICAD 7, qui s'est tenue à Yokohama au mois d'août dernier, le Premier ministre Abe a annoncé que le gouvernement japonais allait faire tout ce qu'on peut faire.
Tout ce que vous pouvez faire.
Oui, mais tout ce que notre gouvernement peut faire en vue de réaliser l'investissement privé de plus de 20 milliards de dollars dans les 3 ans qui viennent. C'est un engagement pris et annoncé par notre Premier ministre Abe lors de la dernière TICAD 7 qui s'est tenue à Yokohama.
20 milliards de dollars sur 3 ans.
Oui, c'est cela.
Et quels sont à vos yeux les pays africains sur lesquels il faut investir aujourd'hui?
Je m'abstiendrai de citer des pays spécifiques, mais je pense que tous les pays africains ont de potentialités. Et à cet égard, le Japon contribuera à la transformation économique en Afrique à travers la promotion des implantations du secteur privé japonais en Afrique et innovation.
Depuis le début du siècle, les Chinois vous ont doublé sur le marché africain. Aujourd'hui, ils exportent vers l'Afrique pour quelques 100 milliards de dollars par an, alors que vous n'exportez que pour quelques 7 milliards de dollars. Pourquoi sont-ils plus performants? Quelle est la différence entre les investissements japonais et chinois?
Je voudrais m'abstenir de faire des commentaires précis en ce qui concerne la Chine. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que de manière générale, il est important qu'on respecte ce qu'on appelle les standards internationaux en ce qui concerne les investissements à l'étranger. Lorsqu'on parle de standards internationaux, il s'agit de plusieurs points. Premièrement, ouverture. Deuxièmement, la transparence. Troisièmement, faisabilité du projet économique. Et enfin, quatrièmement, vous savez, il y a ce qu'on appelle une trappe à la dette.
À l'endettement.
À l'endettement. Donc, il faut penser à la redevabilité des pays récipiendaires.
C'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir si les pays récipiendaires sont solvables, en fait.
Oui. Avant de faire des prêts, il faut savoir que ces récipiendaires sont capables de rembourser après. Il faut constater ce genre de conditions avant de faire des prêts.
Donc ces 4 conditions sont posées par les investisseurs japonais, peut-être ne le sont-elles pas par les investisseurs chinois, c'est ça que vous voulez dire?
Je m'abstiendrai de faire un commentaire en ce qui concerne ce que les Chinois font, mais en ce qui concerne l'attitude des investisseurs japonais, je suis convaincu que nos investissements sont en conformité des standards internationaux que je viens de citer.
Quels sont les secteurs sur lesquels vous êtes performant en Afrique? Quelles sont les entreprises qui ont des success stories, comme on dit?
Je pense tous les secteurs possibles. Et je voudrais vous en citer 2 exemples comme success story. Le premier exemple, c'est celui de l'exemple de Yamaha Motor. Vous savez...
Oui, tout le monde connaît Yamaha. Oui.
Yamaha Motor a développé ses activités en encourageant la pêche et les autres industries locales. Cette entreprise japonaise a également contribué à l'approvisionnement en eau potable dans quelques pays africains et ils ont investi dans la formation de personnels locaux. Je crois que c'est une des success stories. Je vais vous en donner une deuxième success story, celui de Ottawa Electric. Depuis 2014, de jeunes Africains prennent part à l'initiative ABU, African Business Education Initiative. Il s'agit d'un dispositif de formation grâce auquel ils acquièrent des compétences techniques par le biais d'études en master et de stages dans des entreprises japonaises. Une fois de retour en Afrique, ils y jouent le rôle d'intermédiaire avec le milieu des affaires nippon. Et dans ce contexte, le fabricant de paratonnerre Ottawa Electric, ils ont compris la gravité des dégâts causés par la foudre au Rwanda.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que la foudre au Rwanda causait de très graves dommages. Et qu'ont-ils fait alors?
Donc, cette entreprise Ottawa Electric, ils ont distribué ces produits dans ce pays afin que ce pays puisse lutter contre ces dégâts.
Et puis on sait que le groupe français CFAO a été racheté par le groupe Toyota qui du coup s'est bien introduit sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest.
En ce qui concerne CFAO, je pense que l'acquisition du groupe français CFAO par Toyota Tsusho. Toyota Tsusho, c'est une maison import-export du Japon. Je crois que l'acquisition du groupe français CFAO par Toyota Tsusho a permis à Toyota Tsusho de développer ses activités dans le secteur des soins médicaux, de la santé ou de l'éducation et de l'environnement. C'est en quelque sorte un exemple d'un success story de coopération franco-japonaise sur le continent africain.
Mais tout de même, Naoki Takahashi, est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de chefs d'entreprise japonais qui hésitent à aller en Afrique et qui préfèrent investir en Asie du Sud-Est, par exemple?
C'est vrai qu'il y a des entreprises japonaises qui ont toujours des hésitations à investir dans l'Afrique. C'est pour ça qu'en fait, notre gouvernement s'engage à faire en sorte que les entreprises japonaises puissent s'investir dans l'Afrique, développer des ressources humaines industrielles pour faire avancer le business entre l'Afrique et le Japon. Et les participants africains qui ont participé à ce programme ABU, African Business Education Initiative, sont censés jouer un rôle, c'est une sorte de pont entre le Japon et l'Afrique en matière d'affaires.
C'est-à-dire que les jeunes Africains qui vont en stage dans une entreprise japonaise à Tokyo ou à Kobe, quand ils rentrent en Afrique, ils deviennent des intermédiaires entre le Japon et l'Afrique.
Oui, c'est cela.
Naoki Takahashi, depuis 2011, le Japon a une base militaire en Afrique, c'est à Djibouti, une base navale. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire à l'heure où la piraterie maritime dans le golfe d'Aden semble diminuer?
Pour parler de notre présence, notre défense à Djibouti, j'aimerais bien vous évoquer notre politique, ce qu'on appelle un espace Indo-Pacifique libre et ouvert.
Un espace Indo-Pacifique libre et ouvert.
Oui. Premier pilier, c'est de respecter la liberté de circulation. Et deuxième pilier, la réalisation de prospérité à travers avancer la connectivité. Et enfin, la troisième pilier, et de réaliser la sécurité. Et dans ce cadre, en fait, nos forces d'autodéfense japonaises sont stationnées à Djibouti. Et ça peut s'inscrire dans le cadre de notre politique d'un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Et la lutte contre la piraterie et s'inscrit justement dans cette optique.
Naoki Takahashi, vous rentrez du forum de Dakar pour la sécurité en Afrique. Est-ce que le Japon peut être un partenaire des pays du Sahel pour faire face au terrorisme?
En fait, lors de la TICAD 7, le Premier ministre Abe a lancé une nouvelle initiative en matière de paix et de sécurité en Afrique, dite NAPSA, N-A-P-S-A. C'est Nouvelle Approche pour la Paix et la Stabilité en Afrique.
C'est une initiative de Shinzo Abe, votre Premier ministre.
Oui, la NAPSA est constituée de deux piliers. Le premier pilier est l'appropriation de l'Afrique dans la résolution des conflits. Je pense qu'il est devenu important d'impulser davantage la prévention, l'arbitrage, la médiation des conflits avec notamment l'Afrique en position de conductrice. Le deuxième pilier de la NAPSA est une approche des causes profondes qui empêche la consolidation de la paix et de la stabilité en Afrique. Des mesures militaires ne suffisent pas forcément pour réaliser une paix durable. Donc nous considérons qu'il est nécessaire de s'attaquer aux racines des conflits, comme la vulnérabilité des institutions étatiques. Et dans ce contexte, je pense que le Japon pourra faire des contributions pour faire face à de nombreux défis que la région du Sahel fait face aujourd'hui.
Pour renforcer l'état de droit dans les pays du Sahel.
Nous s'engageons à former des gens dans le domaine, par exemple, de la justice, du maintien de l'ordre public et du contrôle des frontières, visant à renforcer les capacités institutionnelles et la gouvernance.
L'ambition du Japon, depuis toujours, c'est de devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et de ce point de vue, est-ce que vos partenaires africains peuvent vous aider, peuvent être des alliés pour que vous atteigniez cet objectif?
Mais la composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies ne reflète pas la réalité du monde du 21e siècle. Les Nations Unies ont été créées en 1945. Le monde a beaucoup changé. Donc il faut absolument réformer le Conseil de sécurité sur le plan de la composition, mais aussi sur le plan de la méthode de travail. Et si la réforme du Conseil de sécurité se réalise, le Japon est prêt à assumer une responsabilité en tant qu'un nouveau membre permanent du Conseil de sécurité. L'année prochaine marque le 75e anniversaire de la création des Nations Unies. C'est un moment de saisir pour faire avancer la réforme du Conseil de sécurité.
Et de ce point de vue-là, est-ce que vous sentez que vos amis africains sont solidaires de votre action ou que chacun fait cavalier seul et tire la couverture à lui?
Les Africains ont des soucis légitimes parce qu'ils ne sont pas représentés en ce moment en Conseil de sécurité, alors que la plupart des agendas qu'on discute au sein du Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Et à cet égard, les pays africains sont des partenaires très importants pour le Japon, pour qu'on puisse faire avancer la réforme du Conseil de sécurité.
Donc vous êtes solidaire?
Bien entendu, nous sommes en étroite concertation avec nos amis africains.
Naoki Takahashi, merci.